Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir des enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Alors, Marie-Ève, au micro, à l'animation aujourd'hui, je suis en compagnie de mes fidèles comparses Mathieu et Simon à la mise en onde.
Salut.
Bonjour.
Bonsoir,
à vous deux.
Bonsoir.
Alors, est-ce que ça sent la fin de session pour certains, certaines d'entre vous?
La fin avant les vacances.
Et la fin de la décennie aussi, bientôt. Au programme aujourd'hui de notre édition du 12 décembre 2019, on aura une longue entrevue avec Jude de Solidarité sans frontières où l'on abordera notamment le travail de soutien auprès des personnes migrantes. Il y aura également les actualités internationales où nous nous tournerons vers l'Amérique latine avec Simon et également, évidemment, notre traditionnel agenda antiraciste. Je vous demanderai d'être indulgent envers votre animatrice puisque je couvre un petit rhume, alors ma voix risque d'être un petit peu enrouée. Sinon, peut-être avant de passer le micro à Mathieu et Jude, son invité, peut-être vous dire que il y a quand même eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Andrew Scheer a démissionné, mesdames et messieurs, quand même.
Oh shit, j'étais même pas au courant.
Eh oui.
Ce midi en chambre.
Alors, je pense que, je sais pas si c'est le chef du Parti conservateur qui aurait été le moins longtemps chef du Parti conservateur, mais... Et que c'est comme une étoile filante, dans le fond. Hein?
Il faut se rappeler Jean Charest et Kim Campbell.
J'allais dire Kim Campbell aussi, mais c'était un petit peu moins raciste à l'époque, je pense.
Ouais, non, c'est ça.
Mais il avait quand même battu Maxime Bernier à l'investiture au 18e tour.
Hein? Ah oui.
Quand même, il faut s'en rappeler.
Maxime Bernier va faire un retour.
Que de bons candidats.
Mais une mauvaise nouvelle aujourd'hui, Marie-Ève, une mauvaise. La loi 21, c'était le jugement de la Cour d'appel et ça n'a pas été suspendu en attendant le jugement sur le fond.
Ah, bon.
Ça va être applicable pour les prochains mois, prochaines années, le temps que ça soit dépassé en Cour d'appel du Québec et ensuite en Cour suprême. Donc, voilà.
Eh bien...
Jugement cet après-midi, oui.
Plein de choses à parler, donc, pour les prochaines années. Alors, on vous revient avec Mathieu et son invité.
Donc oui, ça faisait un bout de temps qu'on voulait avoir une entrevue avec des militants ou militantes de Solidarité sans frontières pour parler de différents enjeux, leur travail évidemment, parce que c'est une organisation à laquelle on se réfère beaucoup pour notre calendrier, pour aussi des analyses sur l'actualité, sur les enjeux touchant entre autres l'immigration. Donc finalement, on a Jude ce soir avec nous. Bonsoir.
Allô.
Donc allô Jude. On va parler de toutes sortes de choses. On va partir du fait qu'il y a des gens qui connaissent pas vraiment Solidarité sans frontières aussi. Fait qu'on va partir un petit peu à la base. Donc, c'est un réseau qui existe depuis 2003 environ et qui a plein de comités, plein d'activités. On va en parler. Peux-tu commencer en me disant, en gros, ce que c'est SSF? C'est quoi son travail principal?
Bien, Solidarité sans frontières est une groupe organisation, un collectif. On fait de la justice migrante de toutes les façons. Existe, comme tu disais, depuis 2003. Fait quand même un bout. Mm-hmm. Quand même on est des vétérans maintenant.
Une vieille organisation.
Ouais. on fait beaucoup de travail d'appui envers des personnes migrantes sans papier ou en situation entre des papiers, parce qu'au Québec, on est souvent entre les papiers. Mm-hmm. On fait aussi beaucoup de travail de support, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les enjeux des personnes migrantes, de toutes les façons, que ce soit comme ben, les différentes sortes de répression, en fait. Là, il y en a beaucoup, vous en parlez souvent à votre émission.
Oui, malheureusement. Donc, c'est un peu un parapluie de beaucoup de militants, militantes, de personnes migrantes, des alliés, évidemment. Peux-tu me dire, c'est quoi les campagnes là, récentes ou actuelles qui vous occupent beaucoup?
Qui nous occupe beaucoup. Présentement, il y a le comité anti-détention, évidemment, qui est centré autour... présentement, on centre la campagne autour de la construction de la nouvelle prison ou de la rénovation, si on veut, de la prison pour migrants à Laval. Mm-hmm. Donc beaucoup de pression sur les firmes d'architecture qui vont faire ça et les différents paliers gouvernement. Le but évidemment c'est de arrêter et d'abolir complètement le système de détention, mais bon, pour l'instant on est focusé sur la construction de la nouvelle prison de migrants à Laval. Ça c'est une campagne qui est récurrente. À chaque année on a la marche en solidarité pour tous et toutes. Donc ça c'est une campagne
qui est permanente
en fait, qui se passe tout le temps. On a aussi une campagne pour avoir accès aux services, qui est la plus la campagne Cité sans frontières, qui est comme pas Cité sans frontières, mais excusez, la campagne de Ville sanctuaire. Qui est comme qui a plusieurs volets en fait. Un, qu'on veut que les différents paliers, les différentes sortes de police, que ce soit le SPVM, la police d'immigration et tout ça, arrêtent de chercher et de faire de l'oppression, puis qu'il y ait moins de communication entre tous ces corps de police là. Mais aussi que les migrants ont accès à des services sans se faire carter, rechercher ou enquêter. Profiler, en fait, est le bon mot,
oui.
Malheureusement. Fait que ça, c'est une des campagnes qui se passe aussi beaucoup.
Quand tu parles de services, il y avait entre autres à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, mais comité bouffe pour tous, santé pour tous, éducation, donc c'était beaucoup...
Oui, beaucoup ces choses-là. Il y a certaines choses qui ont changé, comme l'année logement passée, aussi, logement aussi. Logement, ça, c'est comme un c'est un combat de tous les jours là. Le logement, je sais qu'il y a encore il y a des demandes encore pour plusieurs milliers de logements sociaux. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. L'éducation, il y a une loi qui a changé cette année. On peut maintenant accéder à l'éducation, supposément. On verra au cas par cas, ça peut être difficile, mais comme techniquement maintenant, les gens peuvent accéder à l'éducation.
Peu importe le statut, tu veux dire?
Supposé.
Les enfants, on parle
ouais,
des enfants.
Oui, effectivement. Ouais. Pour les adultes, ça prend un visa, etc. Ça coûte très cher.
Donc, oui, Cité sans frontières, avec tous ces comités. Dis-moi, Jude, comment ça fonctionne, Solidarité sans frontières, au niveau de ces instances, au niveau de cette démocratie, sa vie associative, comment ça fonctionne?
Dans le fond, c'est on pourrait dire l'instance décisionnelle de Solidarité sans frontières, c'est son assemblée générale. On essaye d'en faire 3 ou 4 par année, mais ça, c'est plus autour de 2. La prochaine aura probablement lieu en janvier. Donc, on essaye de réunir des gens de tous les comités en assemblée générale et on débat et on propose plusieurs campagnes, on fait des rapports sur nos campagnes parce que tous les comités sont aussi autonomes, mais on fait les campagnes ensemble aussi, fait que toutes les décisions sont prises en assemblée générale. Après ça, en comité, on fait les réunions en comité où est-ce qu'on a plus un hands-on approach, comme on dit en anglais, pour faire les décisions en comité et puis où est-ce qu'il y a de la communication, évidemment. Faire avancer les choses.
OK. Donc, assemblée générale, comité. Et n'importe qui peut s'impliquer à SSF? Est-ce qu'il y a un examen d'entrée ou est-ce qu'il y a des critères?
Le seul critère, c'est de ne pas faire partie des forces de l'ordre.
OK. C'est un bon début.
Puis de, tu sais, de ne pas être raciste. Ça doit être comme les deux critères.
J'imagine d'appuyer les principales revendications puis les principales positions de Solidarité sans frontières.
Oui, qui est d'avoir un statut pour tous et toutes et l'abolition des frontières. Ça semble, tu sais, la façon que je le dis, ça semble un peu comme une idée qui sort d'un film utopique d'un film de Walt Disney, mais bon, je pense que si on vise là, c'est là qu'on peut avancer beaucoup des affaires, parce qu'en fait, ça aussi ça va à la racine de presque tous les problèmes reliés à l'immigration, qui est comme le statut et la frontière.
Et vous travaillez aussi en collaboration avec d'autres groupes, souvent sur la question des néo-nazis, des fachos aussi. Vous avez appuyé plusieurs manifs à la frontière contre des regroupements d'extrême droite.
Oui.
Donc, il y a ça aussi, hein, je pense.
Oui. Ben ça fait partie de... Surtout avec la moitié de l'extrême droite, surtout ici, localement, et beaucoup centré, ben en fait, un peu partout, là. Mais ici, les groupes sont beaucoup centrés sur l'immigration, avec des idées qu'on considère un peu farfelues, là, des vieilles idées de comme gens qui viennent prendre nos jobs, ou que gens ne veulent pas s'intégrer, ou des théories un peu conspirationnistes sur comme...
Le grand remplacement.
Oui, le remplacement, ou l'agenda caché des musulmans, ou des choses comme ça. Fait que on a appuyé des organisations comme Orient Antifasciste, et d'autres organisations organisations comme à Toronto, à Ottawa, à Montréal aussi. Puis on a plus aussi la grande manifestation contre le racisme qui se passe maintenant deux fois par année. Mm-hmm. Fait quoi?
Beaucoup là-dessus ouais. aussi dans l'actualité. On va parler un peu du travail de soutien, justement. Ça, c'est quelque chose, je pense, de moins connu, peut-être même du milieu militant, des fois, au niveau de ce que fait Solidarité sans frontières, parce que c'est moins public. Peux-tu m'en parler un peu, comment ça fonctionne?
Oui, dans le fond, à travers les années avec les activités, on s'est rendu compte que, ça fait quand même 4-5 ans que je suis sur Solidarité sans frontières, mais si je comprends bien, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi évidemment beaucoup de lacunes dans la vie de tous les jours des gens sans papier. Genre, souvent, là, je parlais plus d'expérience parce que mes parents aussi sont migrants, puis je connais un peu, je prenais beaucoup de migrants dans mes cercles d'amis. Puis les gens, souvent, quand ils arrivent au Canada, tu sais, il faut savoir aussi que Montréal, on pense pas souvent comme ça, mais Montréal, c'est comme une ville, c'est la ville frontalière, en fait. Pas mal, tu sais, il y a des villes à la frontière, mais c'est plus des petits villages, fait que la grosse ville, c'est Montréal, fait que les gens, souvent, ils sont parachutés à Montréal, puis ils sont laissés à eux-mêmes. Mm-hmm. À naviguer une bureaucratie assez lourde, à être dans les mains dans des agences de placement, puis ils ont beaucoup de difficultés, puis des fois, les choses sont uniquement en français, uniquement en anglais, fait que les gens ont beaucoup besoin de support, puis d'aide, puis il y a certaines organisations qui aident, mais comme la majorité des organisations pas assez de, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Fait qu'on fait beaucoup de l'aide par rapport à ça, qu'on les aide. Déjà, souvent, avec le Centre de travailleurs immigrants, par exemple, on aide à comme faire les gens s'aider avec les problèmes de travail, la bureaucratie, la paperasse pour remplir toutes les, la myriade de formulaires du ministère de l'Immigration. On peut aider les gens à chercher un logement. Ce genre d'affaires-là, banque alimentaire, ce genre de choses-là, hein, qui est okay. un travail... ouais. Puis ça permet aussi de faire des tissus de liens de solidarité, en fait. On fait des rencontres, où est-ce qu'on rencontre les gens, où est-ce qu'ils parlent de leurs affaires, puis là, les gens se rencontrent aussi, genre, aussi, comme les gens se sentent moins seuls. Puis ça bâtit
Ça brise l'isolement.
Ça brise l'isolement, puis ça crée une solidarité où est-ce qu'on n'est pas en train de faire de la charité, mais bien comme qu'on travaille avec les gens.
Mm-hmm. Voilà. Ah, c'est important comme nuance quand même.
Oui. Est-ce que vous travaillez plus avec des gens qui sont en situation plus précaire versus des gens qui vont aller voir les groupes communautaires plus traditionnels quand ils ont des démarches plus officielles à faire? C'est-à-dire des gens qui sont souvent un peu en situation, disons, plus précaire, là, si on peut dire ça comme ça?
Oui, ça arrive, tu sais, c'est souvent ça, presque par défaut, en fait, là, parce que souvent... dans les situations plus officieuses, il y a comme certaines démarches à suivre. La seconde que tu sais, t'es en retard ou que t'as pas d'argent ou comme n'importe quel ou que le boss de ton agence de placement comme garder ton chèque, ça arrive en situation assez précaire. Puis y a pas beaucoup de ressources ou ils sont pas très publicisés en tout cas.
Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est les gens qui vous contactent dans ce temps-là, tu sais, pour recevoir de l'aide? Ou comment les gens savent, tu sais, que Solidarité sans frontières existe?
C'est par les communautés, certaines
ouais,
communautés?
Oui, dans certaines communautés. Justement, en faisant des soirées d'entraide, des choses comme ça, on finit par avoir une certaine présence dans la communauté. Fait que...
C'est quoi les soirées d'entraide?
C'est les soirées où est-ce qu'on rencontre des gens sans papier, fait qu'ils reçoivent... c'est pas mal. C'est sur le Facebook, le site web. Puis les gens viennent. Puis on discute avec eux. Fait que là, comme dans les communautés, le mot se passe, en fait. C'est pas mal du bouche à oreille, comme on dit.
Ouais.
Fait que le mot se passe. Puis c'est comme ça que le monde le savent, au fond.
Est-ce que ce travail de soutien-là prend de plus en plus de place dans vos activités? Par rapport à il y a 5 ans, disons.
Bonne question.
Non, mais est-ce que la demande est forte, finalement, c'est ça?
Oui.
Ouais.
La demande est forte, mais tu sais, je peux pas dire il y a 5 ans. Je peux pas comparer vraiment il y a 5 ans. Je dirais, mais... c'est sûr qu'il y a un changement avec qu'est-ce que le gouvernement immédiat a appelé la crise à la frontière.
Mm-hmm.
Dans le sens que... tu sais, par exemple, c'est les gens qui ont été amenés au stade olympique de, ouais, d'Haïti, ou le moratoire qui a été levé sur l'immigration d'Haïti. Présentement aussi, il y a un comité pour les Guinéens sans statut, parce que, ouais, les gens en Guinée sont encore déportés, les Guinéens sont encore déportés, alors qu'il y a une guerre civile, finalement,
ouais,
en Guinée, présentement. Fait que oui, il y a comme... Mais dans, tu sais, je sais pas s'il y en a plus. Il y en a probablement plus, mais tu sais, je pense qu'on travaille à, on est comme à pleine capacité, si on veut. Fait que c'est, pour moi, c'est comme la même capacité.
Ouais, il y a toujours des besoins importants. Il y a les, ouais, Nigériens aussi qu'on pourrait parler, qui sont beaucoup en situation difficile depuis quelques années aussi. Il y avait eu les Zimbabwéens il y a quelques années aussi. Ouais. Il y avait eu un moratoire de levée aussi.
Ouais. Puis il y a beaucoup, tu sais, en fait, les choses changent beaucoup par rapport aux, comme, les actions des gouvernements, là, tu sais, comme la loi 21, mettons, comme, change la donne.
Oui.
Ça, beaucoup de choses.
La perception et tout ça. Oui, tout à fait. Oui, vas-y.
On prend une petite pause.
Oui, on va donner un petit break à Jude pour prendre son souffle.
On le bombarde de questions. On va aller en pause musicale avec une artiste qui vit maintenant à Lisbonne et qui s'appelle Mera Andrade. Et là, excusez-moi, mais mon portugais, il est vraiment, vraiment nul à chier. Je vais essayer de le prononcer comme je peux. Et c'est la pièce « Poc Lidante Itche ».
Me chamo Iá, uma vida ali tá muito difícil, mas solução que é imigrar para sofrer. Na sola banca de mar, depois de grito, comandante. E se vou chegar na terra, é para louvar nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a moiar, uma vida ali está muito difícil. Mas solução que é emigrar para sofrer. Na sola banca de mar, depois de grito, comandante. E se vou chegar na terra, é para louvar no Senhor Jesus Cristo. Arranjando trabalho, não querer ficar, minha cabeça de passaporte. E os documentos é inchada martelo, manhã os dois bros. Que os bichão para mãe, filhos que até criar, naninho sem pai. E os documentos é inchada martelo, manhã os dois bros. Quem os pinchão pambai, fiz que até criar naninho sem pai. Minha pai escrevendo pamba tratou. Tinhas papelada, manha coração, já flaco maná, caminho de pai, mas também cá poder, ficar ali driva barbós, sempre te espiar trabalho, um broco de casa que é para morar. Minha pai escreveu-me, pamba tratão, tinhas papelada, manha coração, já flaco maná, caminho de pai, mas também cá poder. Ali, riba para vós, sempre dois piados trabalho, um broco casa que é para morar, arranja um trabalho que é para ganhar, aquele pão de cada dia. Pouco lhe dente de gel, fortuna lá fora e fantasia. Quem os pinchão, pambai, filhos que até criar, naninho sem pai. Pouco lhe dente de gel, fortuna lá fora e fantasia. Até criar naninho sem pai. Arranjando trabalho que é para me ganhar, aquele pão de cada dia. Pouco lhe dente de gel, fortuna lá fora e fantasia. Quem os pincha pambai, fiz que até criar naninho sem pai. Pouco lhe dente de gel, fortuna lá fora e fantasia. Quem os pincha pambai, fiz que até criar naninho sem pai.
est de retour aux Apatrides Anonymes avec Jude en entrevue de Solidarité sans frontières. Juste préciser que, parce que mes comparses m'ont dit que j'étais pas claire quand j'ai présenté l'artiste qui vient de, dont on vient d'entendre la pièce. En fait, Mayra Andrade, c'est qu'elle était originaire du Cap-Vert et elle réside maintenant à Lisbonne, au Portugal.
Et ils parlent la même langue, donc c'est quand même pratique.
Oui, c'est, oui, c'est ça.
Le portugais. Donc, on va continuer à parler un peu du travail de soutien, Jude, on va compléter là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose, comme je disais, un peu méconnu et qui est dans des situations particulières avec toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de difficultés. Qu'est-ce qui est particulier comme dans ce travail-là? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est un peu confrontant des fois, on pourrait dire?
Qu'est-ce qui est le plus confrontant? Je dirais... Ben, en fait, tu sais, c'est comme, j'essaie de voir, là, qu'est-ce qui est le plus confrontant. J'ai l'impression que toutes les.
Oui, ben, tu peux les nommer, hein, aussi.
En fait,
ouais, ouais.
C'est comme tout confrontant, mais je dirais que quand les gens sont, dans le fond, tu sais, ça, tu sais, je vais pas faire ça pour faire un peu shock value, genre, comme vidéo de Vice, là, mais comme, quand la personne reçoit la lettre par la poste qui dit, comme, déportation dessus, genre, tu sais, comme, ouais. Ça devient comme, parce que là, stress, anxiété, qu'est-ce qui va se passer, blablabla, genre, tu sais, c'est là que ça devient comme, tu sais, qu'il faut essayer de bouger les choses vite. Aussi, on en parlait tantôt pendant la pause, il y a aussi quelque chose que je trouve personnellement qui est méconnu, c'est que Immigrer au Canada, c'est pas gratuit. Ça coûte, je dirais, si tu passes à travers tout le processus, je pense que tu as payé 10 000 $ quand c'est fini.
À peu près 10 000 $ ouais. Donc, ouais.
Fait qu'il y a toujours ça, genre, tu sais, que ça coûte cher, puis souvent les gens sont, tu sais, surtout les gens qui sont sans statut, c'est des gens qui n'avaient pas nécessairement, ben, clairement, en fait, qui n'avaient pas cet argent-là de leur compte en banque, donc c'est comme difficile de ramer pour, comme, aider les gens à, comme, se trouver, parce que dans le fond, c'est comme un espèce de cercle vicieux où est-ce que tu as besoin d'un permis de travail pour avoir un travail, mais que pour émigrer, il faut que tu payes les processus d'immigration. Fait que là, si tu n'as pas encore le permis de travail, en tout cas, tu sais. De comme sortir et aider les gens de tous ces comme problèmes et pièges, dans le fond, dans le processus d'immigration.
Hein. Mm-hmm.
Puis de faire ça continuellement, en fait.
Oui, puis il y a toujours des urgences aussi en plus. Donc, ouais. Fait que justement, comment vous conciliez l'urgence de certaines situations individuelles versus vos campagnes plus de fond sur la discrimination contre les lois racistes, etc.? Comment vous conciliez les deux à travers toutes vos activités?
Ben, c'est là que le travail en comité vient, tu sais, il y a des comités comme le comité Aucune traversée n'est illégale, ils font plus des campagnes publiques, le comité anti-détention aussi fait des campagnes plus publiques, le comité support, on est plus comme derrière la scène, si on veut, le behind the scenes, donc c'est comme ça qu'on fait. Il y a comme une comment on peut appeler ça, c'est comme un travail d'équipe là, c'est comme un sports team un petit peu. Mm-hmm. Fait que il y a plusieurs comités qui vont faire un travail plus public, les autres comités vont faire un travail plus à travers les scènes, puis on va avoir une communication entre les comités pour coordonner les campagnes au fond.
Mm-hmm.
Qui peuvent arriver genre par rapport à certains enjeux spécifiques par rapport à comme une personne, ou qui peut être des enjeux spécifiques plus grands comme la prison ou comme la loi 21 ou ce genre de choses-là, ou les diverses lois sur l'éducation aux adultes.
OK. Ouais.
Puis comment vous, est-ce que c'est difficile des fois, tu sais, de pas de concilier, mais de réconcilier, tu sais, parce que quand même, on en parlait tantôt, tu sais, avec les revendications de Solidarité sans frontières. Solidarité sans frontières a une analyse quand même assez radicale, tu sais, du système de frontières, qui est un système étatique, qui est bon,
colonialiste,
tout ça, puis avec certaines positions aussi anticapitalistes, et tout ça. Donc, est-ce que des fois, c'est difficile, tu sais, de réconcilier ça avec le fait que des fois, on est amené à travailler avec des gens qui n'ont pas nécessairement cette analyse-là, tu sais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je...
Ouais, j'ai plein de... plein de moments qui viennent dans ma tête, là. Mais oui, ben moi, je pense que c'est comme un défi c'est probablement le défi de la solidarité sans frontières, c'est de justement, c'est quelque chose qui est intéressant avec le comité de support, c'est qu'on a l'occasion de avoir cette discussion-là, genre. Moi, personnellement, j'adore ça, avoir des discussions avec des gens qui ont cette analyse-là, puis tu t'attends pas à ce que cette analyse-là.
Ouais.
Mais quand les gens ont pas cette analyse-là, c'est intéressant de comme leur expliquer, tu sais, puis tu sais, ça, encore une fois, c'est une perspective plus personnelle, mais étant un, tu sais, comme un fils d'immigrant, j'ai aussi comme, j'ai l'impression souvent que ma relation avec genre d'autres personnes migrantes, d'autres personnes sans papier est comme plus particulière quand j'arrive avec une analyse qui est pas l'analyse de comme tu sais que Pierre-Éliott Trudeau c'est comme le second coming de Jésus.
Justin,
genre.
Tu veux dire?
Ben Justin, mais la génération de mes parents est très sur Pierre-Éliott.
Ouais, ouais. Okay, ouais, ouais. C'est vrai.
Justin,
ouais.
En fait, c'est le fils de l'autre.
Ouais.
Mais la génération de mes parents trouve que Pierre-Éliott Trudeau c'est comme le, tu sais, le retour de Jésus.
La charte des droits.
Puis, ouais, puis ouais. La charte des droits, puis comme les, tu sais, puis faut le dire là, mes parents immigrés, c'est beaucoup plus facile d'immigrer au Canada à 40 ans. Mais bon.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est comme intéressant d'avoir cette discussion-là aussi, de faire les liens entre les, pas juste le système étatique anti-capitaliste qui est comme l'État canadien et ses frontières, mais comme son rôle dans la migration des peuples. Comme c'est un peu classique, mais comme souvent les métropoles impérialistes, les migrants se ramassent à être des gens qui sont affectés directement par les activités de cette métropole impérialiste.
Mm-hmm.
Donc, ouais.
Puis ça, cette analyse-là a pu rejoindre beaucoup de monde, j'imagine, aussi, qui viennent de pays qui sont des anciennes colonies ou des colonies modernes, là, disons.
Oui, oui. Souvent, les gens, surtout les gens à statut précaire, émigrent souvent directement à cause de ces raisons-là.
Mm-hmm.
Oui. Ouais.
OK. Je vais juste aborder aussi la question de la, parce qu'on est beaucoup dans la question de la discrimination, du racisme avec les politiques, entre autres, de la CAQ depuis quelques mois. Je me demandais si c'est quelque chose sur lequel vous comptiez vous engager plus ou est-ce que pour vous, ça répond à votre mandat aussi à Solidarité sans frontières?
Oui. C'est sûr que je pense que, genre, dans un monde idéal, on stormerait le Parlement. Là.
Bien sûr.
On stormerait l'Assemblée nationale, puis on gueulerait après François. Mais oui, c'est sûr que je dirais que moi, ma perspective, c'est que c'est un peu overwhelming. T'sais. Comme le... T'sais, on attendait... Je pense qu'on était parti pour faire une grosse campagne contre la loi 21 puis contre la suppression des 18 000 dossiers d'immigration qu'il y avait ça au printemps. Finalement, t'sais, en 24 heures, la veille, en fait, de la marche statue sur tout de cette année, dans la même nuit, genre entre 2h et 4h du matin, les deux lois avaient été passées.
Sur
le baillon, on s'est levé le matin, puis là, c'était ça. Puis là, il y avait plein de alliés potentiels qui allaient comme, tu sais, qui allaient ne pas suivre la loi 21, mais finalement, comme une semaine avant rentrée des classes, la CSDM a décidé que finalement, elle allait suivre la loi.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Fait que tu sais, c'est vraiment comme, on se retrouve dans une situation où on se ramasse à réagir ou à s'ajuster à la loi. Genre, là, il y a des challenges en cours. Fait qu'on va attendre les challenges en cours, mais là, on vient d'apprendre que le premier challenge est comme pas marché. Fait que là, on va aller à l'autre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que oui, il faut qu'on se regroupe, qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire. Là. Ça va être quoi la stratégie? Comment on va pouvoir faire du sport? T'sais, être contactant avec les communautés qui sont affectées par la loi 21 plus en fond.
Ouais.
Ouais.
Genre affaire là, puis les t'sais, les 18 000 dossiers d'immigration, c'est comme aussi t'sais,
flou.
C'est ça, c'est comme super flou là.
Ouais, on sait pas trop ce qui est arrivé,
c'est ça.
On va terminer tranquillement, Jude, avec vos activités à venir dans les prochains mois ou prochaines semaines. S'il y a une nouvelle campagne qui s'en vient ou c'est une campagne sur laquelle vous allez plus mettre l'accent.
L'accent, c'est pas mal les mêmes campagnes. En fait, dimanche, j'ai une vigile pour Soli, qui est en fait quelqu'un qui est décédé
en détention
de la police d'immigration il y a un an. Il n'est pas décédé jour pour jour, du moins. Je pense que c'était comme...
Il est décédé le 15 décembre 2016.
Okay. Ah, okay. Ah, il y a trois ans.
Il y a trois ans. Ouais.
Fait qu'une vigile pour lui ce dimanche. Malheureusement, toujours sur la thématique de l'emprisonnement, de la détention, il va avoir la manif de bruit du Nouvel An, quand t'es prison, qui va être comme d'habitude à Laval.
Le 31 décembre.
Ouais, je donnerai les détails tout à l'heure, dans le calendrier.
Effectivement.
Tout à fait.
Puis sinon, ben, il va y avoir une marche pour tous et toutes, probablement en juin. 2020.
On espère que la tradition va continuer quand même, hein? Avec tout ce qui se passe.
Puis la campagne aussi, j'imagine, contre la prison de Laval qui continue, là,
ouais.
Dans laquelle ça fait impliquer aussi. Puis,
Ouais. Il y a ça. Il y a toujours de plus en plus. Tu sais, comme je vous en parlais des fois aussi, mais l'espèce de fiasco de la caisse de dépôt en Colombie. Là.
Oui.
Ouais.
Genre, qui va sûrement se passer des affaires par rapport à ça.
Ah oui, il y a plein de dossiers, c'est sûr. Je rappelle les 5 revendications de SSF. Donc, non aux détentions, fin aux déportations, une cité sans frontières, non à la double peine, on n'a pas parlé, et un statut pour tous et toutes. Donc, les gens intéressés à vous appuyer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou à participer?
Oui, vous pouvez aller sur le site de Solidarité sans frontières, qui est solidarityacrossborders.org. Vous pouvez aussi aller sur Facebook Solidarité sans frontières et sur Twitter à SolidarityMTL.
Et les assemblées générales sont ouvertes à tout le monde? Est-ce qu'ils sont publics?
Oui, on les publie sur le site web. Je sais que la prochaine est en janvier, mais je pense qu'il n'y a pas encore d'endroit.
OK.
Et de date, je pense que ça va être vers la mi-fin janvier.
Donc, ce serait un bon moyen pour rentrer, pour aller s'intéresser à ce que vous faites ou s'impliquer.
Oui.
Ben, merci beaucoup, Jude, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça fait du bien d'avoir une bonne entrevue de fond, de prendre le temps de parler du travail de soutien puis du travail que Solidarité sans frontières fait. Parce que, effectivement, à l'heure où il y a le délit de solidarité est de plus en plus présent dans certains États, c'est quand même l'arme la plus efficace qui reste, la solidarité.
Mm-hmm. Ouais, merci de m'avoir invité.
Ben, merci à toi. Puis on passe en musique, Marie-Ève?
Oui, on passe en musique. On va entendre Bonito, qui est un ancien des Cavaliers Noirs,
pour ceux qui s'en rappellent.
Et on va écouter donc la pièce Respect.
Ou Respect.
Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. J'écoute, ouvre grand mes oreilles, je prends note. C'est écœurant comment j'entends des commentaires de toutes sortes. La rapace raciste, y'en a trop, j'capote. J'entendais pas que la droite vienne frapper à ma porte. Blanc comme un drap, évite de penser comme un T-Joe plate. Garde-les pour toi, mon vieux, y'a rien de drôle. J'prends la shit au sérieux. Chacun sa culture, chacun sa foi, chacun son dieu. Pisse aux couleurs qui s'unissent pour que ça bouge. Blanc, noir, jaune, brun, sans oublier les rouges. Même au Québec, mentalité de redneck. Y'en a une bonne gang à qui j'clouerais le bec. Mais bon, des cons, on a partout, c'est pas nouveau. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'est servi de cerveau. Immigrés, je me souviens d'où on vient. Respect aux ancêtres amérindiens. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Des mots. C'est rien que des mots, ça brisera pas de maison. C'est faux. Y'en a qui résonnent comme des coups de fouet dans le dos. T'entends ma voix, mon gars, ça va jusque là. T'entends mon nom, c'est pas blanc tout ça. Pourquoi tant de rancœur? En quoi je te fais peur? C'est une question de couleur. Sors dans ta noirceur. Les préjugés ici sont bien ancrés. Ça fait un bon 4 siècles qu'ils sont pratiqués. Suffit d'une guerre à l'autre bout de la terre et je deviens suspect juste pour satisfaire tes peurs. Ça prend des coupables et quelques complices. Autant mettre mon nom au top de ta liste. Comme tout mensonge depuis le début des temps, c'en est juste un autre qui alimente le moulin avant. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui t'aident avant toi.
Respect, reste vrai comme toi, je rêverais de vivre dans un meilleur monde. Mais non, je reste prêt pour le pire. Sinon, on risque d'avoir du regret dans l'avenir. Faut réfléchir, prendre du retrait et agir contre le racisme, trouver sa racine. Parce que l'État survit et les peuples s'assassinent. Ça fascine de voir comment c'est facile de rendre quelqu'un raciste avec un cerveau fragile. Fais pas l'imbécile, sois pas hostile. Pourquoi tu t'obstines à déterrer des fossiles? Le passé t'appartient pas, pense au futur. Car demain, tu peux te réveiller sur une chaise de torture. Pour couper les liens entre toi et ta culture, ils veulent que t'ailles par du voisin pour te poser une clôture. Moi, je regarde le monde avec un œil de daltonien. Les couleurs, je les sépare pas, car ça donne rien.
Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect à ceux qui étaient là avant toi. Respect aux couleurs du monde entier. Respect aux réfugiés, aux immigrés. Respect aux peuples défavorisés. Respect.
Et oui, c'était Bonito avec Respect, qui était tiré de l'album Face à l'obscurité, qui s'était cette pièce-là s'était d'ailleurs déjà retrouvée sur une des compilations que Solidarité sans frontières avait fait pour une de ses campagnes de financement. Donc c'était tout à fait à propos. Très bon choix, Simon.
Tout est dans tout. Hein?
Tout.
Toujours.
Alors Simon, toi, tu nous amènes en Amérique latine aujourd'hui.
Ben il fait froid. Je me disais que ce serait le froid.
T'es con.
Je suis très con, parce que je vais parler de sujets qui sont pas drôles, évidemment. Donc, peut-être Guatemala, si j'ai le temps, mais surtout Venezuela, Colombie. Ça brasse particulièrement beaucoup dans le nord de l'Amérique du Sud, actuellement. En Amérique centrale aussi, ça brasse pas mal tout le temps, mais on en entend moins parler. C'est des plus petits pays. Bref, Venezuela, plus de 4,6 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays au cours des dernières années. Donc, c'est un exode, je pense, le plus gros de l'histoire du Venezuela, depuis que ces frontières-là, ce pays-là existe. Donc, forcément, les pays voisins, sauf la Colombie, ont durci leur politique migratoire. Donc, Chili, Pérou et Équateur ont imposé des mesures aux Vénézuéliens qui seraient tentés de vouloir entrer dans leur territoire. Des visas, des demandes d'un passeport officiel. Tous ces pays-là, les trois pays, je les renomme, c'est Chili, Pérou et Équateur, demandent des visas qui peuvent coûter jusqu'à 100 $ américains, donc par personne, incluant les enfants. En général, il faut donner des pots de vin aux fonctionnaires qui peuvent aller jusqu'à 5 000 $ US par personne, incluant les enfants aussi.
Ça fait cher pour un visa de 100 $ quand même, c'est un peu ridicule.
Ouais, puis surtout, il y a le contexte économique vénézuélien, on parle d'hyperinflation actuellement, ouais. Donc ça atteint jusqu'à 10 000 millions de pourcents par année, en plus d'une dévaluation de la monnaie. Donc imaginez comment ça doit être difficile juste réunir les fonds nécessaires pour avoir les papiers officiels.
10 000 millions de pourcents.
Ouais, ça c'est en 2019.
C'est de la méta-inflation.
Ouais, ça dépasse, on est même plus capable d'imaginer, c'est abstrait le rendu à ce niveau-là. Ensuite, il y a les délais, c'est à peu près impossible d'avoir les papiers dans un délai raisonnable. Donc la conséquence, c'est que le nombre d'entrées officielles de migrants vénézuéliens, et là, je parle bien d'entrée officielle. Au Chili, au Pérou, en Équateur, il n'y en a pratiquement plus. Résultat, sur le terrain, les migrants vénézuéliens traversent les frontières de façon irrégulière en utilisant des chemins non officiels, se retrouvent dans l'impossibilité de faire une demande de statut de réfugié, puisqu'ils ne passent pas par par les postes frontaliers du gouvernement, se ramassent avec un statut irrégulier ou pas de statut du tout, ce qui augmente le risque de tomber dans les mains des trafiquants, de passeurs qui ciblent les migrants les plus vulnérables. Le cercle vicieux habituel comme celui qu'on voyait en Europe ou sur les chemins. Tout ça malgré que les pays, les trois, Chili, Pérou, Équateur, avaient signé la convention de Carthagène qui normalement devrait les engager à accueillir les pays signataires de la convention, dont les Vénézuéliens, selon les conditions qui avaient été négociées. Mais on n'est pas à une contradiction près. Ces pays-là font aussi partie du groupe de Lima, qui d'un côté dénonce les violations des droits humains au Venezuela, mais de l'autre impose des restrictions à leurs ressortissants. Donc, faut pas mettre trop ça en lumière les deux en même temps parce que ça pourrait ressembler à de l'hypocrisie. J'aimerais aussi souligner les sanctions économiques instaurées par le gouvernement d'Obama à l'époque et renforcées sous Trump récemment, qui empirent la situation du Venezuela, qui est déjà désastreuse. Souligner peut-être le fait aussi que Washington est un grand donateur d'aide humanitaire aux pays latino-américains qui accueillent les migrants vénézuéliens.
Mais s'il n'en accueille pas?
Ben, c'est pour peut-être éviter de les accueillir chez, aux États-Unis directement. Ouais. Donc, d'un côté, on déstabilise un peu la situation au Venezuela. On aide l'aide, je sais pas comment dire ça, aide l'aide aux pays voisins, aux pays limitrophes du Venezuela pour qu'eux accueillent...
Ils servent de tampon un peu, dans le fond.
C'est ça, tampon, mais eux refusent en mettant des droits, mais acceptent quand même l'aide. Donc, bon, on a les deux ONG, ils sont là, ils ont juste à chercher des passeports. C'est un gros bordel, finalement. Il y a eu récemment une entente signée entre Washington et le Guatemala qui tend un peu à confirmer la tendance que les États-Unis sous-traitent de plus en plus l'accueil des migrants aux pays d'Amérique latine pour essayer de les éloigner de leurs propres frontières. Si j'ai le temps, je vous parle de cette entente-là tantôt. Bref, selon des chiffres récents de l'Organisation des États américains, le Pérou a accueilli 900 000 Vénézuéliens jusqu'à maintenant, le Chili 400 000, l'Équateur 350 000, mais ça, c'est avant l'instauration des nouvelles conditions d'entrée. Depuis la fermeture, en guillemets, des frontières de ces trois pays-là, la plus grande proportion des migrants vénézuéliens va vers la Colombie. Il y a actuellement 1,6 million de migrants vénézuéliens en Colombie. Le gouvernement colombien réaffirme vouloir conserver une attitude de réciprocité envers le Venezuela puisque les flux migratoires inverses ont longtemps eu cours, c'est-à-dire que c'était plus des Colombiens qui allaient vers le Venezuela. Mm-hmm. Donc, on semble vouloir respecter ce principe-là de réciprocité actuellement et on bloque pas la frontière. Il se passe des choses en Colombie aussi. On va parler peut-être de barrages tantôt si on a le temps, mais il y a les FARC qui se réarment et d'autres groupes de plus en plus. Donc, le climat social est un peu... redevient difficile en Colombie, si on veut. Donc, ça rend plus difficile les mouvements à l'intérieur du territoire colombien. Donc, ce que beaucoup d'ONG, beaucoup d'observateurs craignent actuellement, c'est qu'on se ramasse avec des camps de réfugiés surpeuplés le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela et que les gens aient peur ou qu'il n'y ait carrément pas de réseau, pas d'infrastructure pour aller plus à l'intérieur du pays pour avoir une vie que de la lue, finalement, dans une ville, une vraie ville et non dans un camp. Ça m'amène à la Colombie, tout ça. Grosse parenthèse, mais sous un angle assez différent, dans une région différente. Donc, on va s'éloigner des frontières aussi. Donc, il y a la Caisse de dépôt qui a prêté 313 millions de dollars à l'entreprise colombienne Empresas Públicas pour le fameux méga projet de barrage hydroélectrique qui s'appelle Hidroituango. Excusez mon espagnol. Il y a eu aussi un autre prêt du gouvernement canadien via Exportation Développement Canada de 400 millions de dollars, celui-là. Donc, quasiment un milliard d'argent canadien injecté dans un projet que tout le monde qualifie de catastrophique et de dégueulasse en Colombie. Le barrage, donc, Hidroituango, c'est au nord de Medellín. Il est gigantesque. On le qualifie de désastre social et écologique. Projet qui est à la base d'expropriations massives qui touchent environ 27 municipalités ou 100 000 personnes évacuées jusqu'à maintenant. Donc, c'est assez gigantesque. C'est un projet qui aurait déjà engendré des assassinats, des disparitions, des violations de droits assez graves et qui a des impacts déjà, malgré qu'il n'est pas fini, sur le territoire, sur le sol, sur les zones habitables, les zones cultivables, sur les écosystèmes. Par exemple, il y a eu des changements majeurs sur le niveau du fleuve Cauca qui provoquent une érosion assez importante. Je dis ça parce que c'est le deuxième fleuve de Colombie puis ses abords sont très, très habités des deux côtés. Donc, un peu ici, comme si on inondait la plaine du Richelieu ou du Saint-Maurice, il y a des villes de chaque côté, il y a énormément de personnes. C'est un peu la même chose en Colombie. On constate aussi une sédimentation qui affecte la santé et la pérennité des poissons, ressources très importantes dans la région en termes à la fois alimentaires et économiques. Il y a eu des accidents graves, des glissements de terrain. En 2018, glissement de terrain qui a provoqué une crue incontrôlable. Il y a eu des problèmes structurels. 30 000 personnes ont dû être évacuées d'urgence. Ça, c'est un petit accident pendant la construction du barrage, là. Il y en a eu d'autres aussi.
Ouais.
Beaucoup de déficiences techniques, donc voilà, qui ont déjà été réalisées. Une petite odeur de corruption aussi, qui a entre autres été enquêtée par le Globe and Mail et qui a pu être vérifiée par la suite. Il y avait déjà une mobilisation assez forte, même avant le début des travaux qui ont commencé en 2010. Parce que le gouvernement a commencé déjà à envoyer des avis d'expropriation, des avis de « on va déplacer tel, tel truc », donc les gens essaient de protéger leur milieu de vie en général.
La Caisse des dépôts et Exportation Développement Canada ont des bureaux très bien financés pour étudier les situations à l'étranger, pour étudier les situations. Donc, normalement, avant de prêter des centaines de millions, on analyse un peu, est-ce que normalement ça respecte un certain niveau de droits humains, certaines normes environnementales? On ne sait pas ce qui s'est passé avec ça.
Donc, je pense qu'il faut revenir à la petite odeur de corruption. Follow the money, comme on dit.
Attention à ce que tu dis. On est peut-être écouté, Marie-Ève.
En balado.
Sur choc.ca. donc, c'est ça. Il y a des mouvements de contestation en Colombie, évidemment. Il y en a aussi ici au Québec. Il y a une pétition de l'Assemblée nationale que vous trouvez en ligne qui s'appelle « Retrait du financement accordé au projet Hydro-Ouiatogo par la Caisse de dépôt ». Il y a la militante colombienne Isabelle Zuleta qui est venue nous visiter ici pour chercher des appuis. Elle en a trouvé pas mal. Elle a fait une tournée ou elle est en train de faire une tournée dans le reste du Canada aussi pour que la pression augmente sur Exportation Développement Canada pour qu'il y ait des campagnes pour qu'eux aussi retirent leur financement. Il y a une manif le 13 novembre devant la Caisse de dépôt. Pour l'instant, les financements publics canadiens et québécois ne sont pas retirés. Je vais vous inviter à aller sur la plateforme Vimeo voir une vidéo qui s'appelle Hydro-Ouiatogo, projet de violence et de destruction pour mieux comprendre tous les enjeux autour de ce barrage qui sème la désolation, la colère et même la mort autour de lui. Je vais vous parler du Guatemala et du Honduras en 2020. Je pense, parce qu'on a encore une émission assez chargée.
Oui, parce que sinon, il faudrait que tu en parles en 30 secondes.
Puis ce serait pas... ça sert à rien.
Non, non. C'est ça. Mais merci, Simon. C'est vraiment tout le temps aussi fouillé, tes chroniques. Alors, merci encore.
Ben merci.
Marie-Ève au micro pour l'agenda antiraciste. Question de bien finir l'année 2019 en manif et autres protestations. D'abord, comme Jude l'a mentionné tout à l'heure, il y aura une vigile pour Soli. C'est organisé entre autres par Radla McGill en collaboration avec plusieurs autres organisations. La vigile va avoir lieu, c'est donc à la mémoire de Souleymane Fakhiri, comme on le disait, qui est décédé le 15 décembre 2016 alors qu'il était incarcéré au centre correctionnel du Centre-Est en Ontario. La mort de Soli était survenue après une altercation avec les gardiens de la prison. Il a été retrouvé avec les mains attachées dans le dos, les chevilles attachées ensemble également. Il y avait The Fifth Estate, qui est une émission de la CBC, qui avait fait une enquête à l'époque et qui a interviewé une personne qui était détenue en même temps que Soli au centre correctionnel Centre-Est. Et cette personne-là avait été témoin du meurtre de Soli par les gardiens, mais jamais le témoignage de cette personne a été retenu et inclus dans le rapport de la police. Donc, à ce jour, donc 3 ans plus tard, il y a personne qui a été accusé pour le meurtre de Soli. Donc, c'est un peu pour ça que la vigile est organisée, mais aussi pour toutes les personnes qui sont mortes alors qu'elles sont incarcérées par l'État canadien. Donc, la vigile va avoir lieu ce dimanche, le 15 décembre. Il y en a un peu partout au Canada. À Montréal, c'est à 18h. C'est aux portes Roddick de l'Université McGill, qui est à l'intersection là, de Sherbrooke-West et McGill College. On demande d'apporter une chandelle, puis pour plus d'infos, vous pouvez consulter la page Facebook du comité Justice pour Soli. Alors, mon deuxième événement, c'est le lancement de la revue du 82e numéro, 82 numéro quand même, de la revue À Bâbord, qui porte sur le populisme de gauche, mesdames et messieurs, quand même.
C'est sur nous?
Ben c'est pas clair. Je vais vous lire le résumé en fait c'est un dossier spécial, un numéro spécial. Le populisme n'a pas souvent bonne presse. Il est vu comme une façon complaisante de faire de la politique, jouant sur les plus bas instincts de la population, sur les émotions premières et réfléchies, simplifiant les enjeux autant que possible. Mais cette vision ne fait pas l'unanimité, paraît-il. Certains penseurs et certaines personnalités politiques considèrent que le populisme s'attaque en fait à l'élitisme, à une classe dominante qui se sert de la politique pour consolider ses privilèges. Donc, je pense que c'est de voir, tu sais, est-ce que le populisme de gauche est mieux que le populisme de droite? En tout cas, c'est pas tout à fait clair, mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Il y a plusieurs auteurs qui vont être présents là lors du lancement. C'est ce mardi 17 décembre à 18h au Station Host, qui est sur la rue Ontario, au coin Alexandre de Sèvres. Ça pique la curiosité, en tout cas.
Où la bière est très bonne.
Oui.
Effectivement.
Oui, elle est un peu chère, mais elle est très bonne.
Effectivement. Je suis très d'accord.
Sinon, également, c'est toute cette semaine, là, on passe au... attends, tout à l'heure, j'ai dit mardi 17 décembre, puis là, je suis rendue au lundi 18 décembre, il y a quelque chose qui marche pas. 17 décembre, c'est bon, on va lâcher les jours. Donc, pour le lancement de la revue, à la base, c'est
on va recommencer
décembre.
Tout.
my God, désolé. Je pense que c'est les médicaments qui viennent de rentrer. Hein. Bah. Dans le cadre de la Journée internationale des migrants, il y a le comité Travail migrant du Front de défense des non-syndiqués qui organise une journée de discussion qui va porter sur 4 thèmes. L'accès à la citoyenneté pour les travailleurs et travailleuses migrants temporaires, l'accès à la syndicalisation et le projet de loi 8, le droit au travail et la protection sociale et un thème plus large, le racisme et discrimination. Donc, c'est vraiment une journée de discussion qui va se dérouler sous forme d'atelier le 18 décembre à partir de 9h30. C'est à la maison Bellarmin qui est située sur Jarry, au métro Jarry. Malheureusement, j'ai comme pas plus de détails que ça. J'ai essayé de trouver plus de détails ou en tout cas pour pouvoir donner un courriel pour avoir plus d'informations, mais il y avait rien. C'est toujours ça. Et finalement, mon dernier événement de quel je voulais parler et dont Jude a mentionné également, c'est la traditionnelle manif de bruit du Nouvel An qui a lieu à chaque veille de jour de l'an, donc depuis plusieurs années. C'est en solidarité avec celles et ceux qui passent le temps des fêtes derrière les barreaux. On le sait, hein, les prisons ont été créées afin d'isoler certaines personnes de leur communauté. Donc, les manifs de bruit devant les prisons, c'est vraiment une manière concrète de se battre contre la répression puis l'isolement qu'elle engendre. Puis un isolement qui est encore plus difficile à supporter, je dirais, pendant le temps des fêtes. On sait qu'il y a comme beaucoup plus de suicides en prison que pendant le temps des fêtes. Le 31 décembre à 16h30, c'est le point de rendez-vous au métro Henri Bourassa, au coin de la Jeunesse et boulevard Henri Bourassa. De là, des autobus vont partir pour se rendre à Laval, parce qu'effectivement la vigile a lieu à la prison de Laval. Faut pas oublier de s'habiller chaudement, d'apporter quelque chose pour faire du bruit le plus possible, sifflet, casserole, tambour, amenez vos bannières, feux d'artifice même. Et si vous voulez plus d'informations pour cet événement, donc 31 décembre, la manif de bruit du Nouvel An, vous pouvez visiter la page Facebook qui s'intitule « Semaine contre les prisons » puis vous allez tomber sur toutes les informations. Mais vraiment, c'est vraiment important d'assurer une présence à chaque 31 décembre. Eh bien, c'est tout pour cette 17e édition des Apatrides Anonymes. Je remercie Simon qui a assuré la majeure partie de la mise en onde aujourd'hui et une chronique internationale.
Merci à toi pour l'animation suave malgré la voix embrumé, tu disais au début de l'émission.
Et merci Simon et Jude pour la super entrevue.
Mathieu.
Mathieu, pardon, et Jude.
Ça fait plaisir, Marie-Ève. Ça fait plaisir.
Évidemment, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site internet de Choc ou encore sur notre propre site internet qui est www.apatridanonyme.info au pluriel. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook. Vous dire que nous ferons relâche pour la période des fêtes. Et oui, nous allons festiver de notre côté. On se retrouve donc en 2020, plus précisément le 9 janvier, où nous vous proposerons notamment notre bilan de l'année 2019, ainsi que quelques prédictions pour l'année 2020. Et donc, de la part des Apatrides Anonymes, joyeuses fêtes et en vous souhaitant de ne pas avoir trop de discussions avec des mononcles racistes.
Merci.
Chess 16 avec la pièce Cut Up de l'album de Tracy Fragments, qui était une bande originale avec différents artistes. Et sur ce, c'est un au revoir pour le vrai. On se reparle en 2020.